Vous écoutez
RMC.
Il est 7h59, quel plaisir de vous accompagner tous les jours sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Tout de suite le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'effroi à Nice où une femme a été abattue au volant de sa voiture hier soir sous les yeux de son enfant par des tireurs à scooter, toujours recherché ce matin. RMC en direct de Nice dans un instant. Vous allez entendre le témoignage RMC du père de la première victime d'un baby-sitter condamné pour avoir violé un enfant il y a quelques années et qui aurait récidivé à sa sortie de prison. Et puis Conseil européen à Bruxelles aujourd'hui, il sera évidemment question des annonces hier, des annonces encore floues hein, de Donald Trump sur le Groenland, futur accord et finalement pas de taxes.
C'est la sidération ce matin à Nice.
Où une jeune femme a été abattue par balle hier soir au volant de sa voiture et sous les yeux de son bébé de 6 mois sur une avenue dans l'ouest de la ville par des tireurs qui circulaient à scooter et qui ont pris la fuite. Pierre Bazin, vous êtes en direct de Nice ce matin pour RMC. Les suspects sont toujours recherchés.
Oui, ce matin, une source proche du dossier nous confirme qu'aucune interpellation n'a eu lieu pour l'instant. Deux hommes sont toujours recherchés. Pourtant, jusque tard hier soir, des opérations de police menées notamment avec l'appui du RAID ont eu lieu dans la ville pour retrouver le tireur ainsi que le conducteur du scooter, les deux hommes qui ont donc ouvert le feu sur une femme de 25 ans. Il est environ 18h hier lorsqu'un deux roues se porte à la hauteur du véhicule qui roule... De la mère de famille, le passager du scooter ouvre le feu sur la conductrice. Elle est mortellement blessée. Dans cette voiture se trouve également un bébé de 6 mois qui s'en sort indemne selon les autorités. Les deux tireurs, eux, prennent la fuite. Plus tard, le scooter qui pourrait avoir été utilisé par les deux hommes a été retrouvé sans plaque d'immatriculation. Les enquêteurs travaillent à ce stade sur plusieurs hypothèses. Si le mode opératoire ressemble à un règlement de compte sur fond de trafic de stupéfiants, la piste du drame intrafamilial n'est pas écartée pour l'instant par les enquêteurs. En revanche, les policiers pensent à cette heure que l'équipe qui a ouvert le feu a certainement agi à la demande d'un commanditaire.
Pierre Bazin, en direct de Nice ce matin pour RMC. Ce témoignage RMC ce matin dans l'enquête sur ce baby-sitter de 36 ans placé en détention provisoire il y a une dizaine de jours à Lille parce que soupçonné de viol sur un enfant en bas âge qu'il gardait. Cet homme avait déjà été condamné en 2020 pour avoir violé un enfant de 2 ans à Nice. 6 ans après, le père de cette victime s'exprime pour la première fois ce matin sur RMC. Il ne comprend pas comment, après 5 ans de détention et une interdiction d'exercer une profession avec des mineurs, comment cet homme a pu être au contact d'une trentaine de familles. Témoignage RMC, Pierre Bazin, Martin Juré.
Oui, il y a quelques jours, lorsqu'Alexandre reçoit un appel de son avocate, elle lui explique que le babysitter qui a violé son fils en 2019 vient d'être placé en détention pour des faits similaires. Le père de famille s'effondre.
Quand on apprend cette nouvelle-là, c'est un coup de tonnerre. C'est un coup de massue sur la tête et une immense colère. Il est censé être sous suivi psychologique, suivi judiciaire, il a été soigné, médicamenté. Il se passe rien au final, on parle de 30 familles, potentiellement c'est énorme.
Ces faits ravivent un traumatisme lorsque ce soir de 2019, l'enfant d'un peu moins de 3 ans fait une confidence à ses parents avec ces mots de petit garçon.
Il nous a dit que ce babysitter qui s'appelle Camille avait mis son zizi dans sa bouche. Que stupeur, tremblement. Avec l'enquête, on découvre le récit aussi de ce qui s'est passé plus précisément. Ça fait froid dans le dos.
Aujourd'hui, il ne comprend pas comment le babysitter de 36 ans a pu exercer au contact de mineurs malgré sa condamnation.
C'est la sanction qui n'est pas adaptée et le suivi qui n'est pas adapté. C'est délirant de savoir qu'on lâche des malades sexuels dans notre société. Pourquoi il n'y a pas une liste des délinquants sexuels sur mineurs qui soit accessible au moins à certains types d'autorités ou d'organismes? On est tous concernés.
Le père de famille veut interpeller les pouvoirs publics, lui qui se dit favorable à la castration chimique des délinquants sexuels.
Il est 8h03 sur RMC. Après Davos, les Européens vont se réunir à Bruxelles aujourd'hui.
Oui, Conseil européen. Au lendemain, donc, des annonces faites hier soir par Donald Trump. On se demandait ce qu'il allait dire. Il avait l'air satisfait d'annoncer un futur accord sur le Groenland. Mais sans toucher à la souveraineté de l'île, a quand même précisé dans la soirée le chef de l'OTAN, Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Il a aussi renoncé à ses menaces de droits de douane, nouvelles taxes qui étaient censées viser les Européens, ce qui est donc une première victoire.
Oui, les Européens sont passés de la crispation face au discours fleuve de Donald Trump à Davos hier après-midi au soulagement dans la soirée. Le président américain fait redescendre d'un coup la pression d'un cran. A-t-il cédé aux menaces de mesures de rétorsion européennes? Il y a un début de recul, se réjouit ce matin le ministre français de l'économie Roland Lescure, qui dit rester toutefois vigilant. C'est bien la preuve qu'il faut se montrer ferme. La moindre faiblesse se paie, juge un ancien dirigeant européen. On voit bien que la prudence est de mise. Le Danemark, d'ailleurs, ce matin rappelle qu'il entend poursuivre un dialogue constructif, mais dans le respect de son intégrité territoriale. Et c'est tout l'enjeu parce que le contenu de l'accord n'a pas été communiqué et le patron de l'OTAN précise que le sujet de la souveraineté du Groenland n'a pas été évoqué. Il y a encore beaucoup de travail, prévient-il. À Berlin, le ministre allemand des Finances met en garde contre un optimisme prématuré. Prudence face aux revirements fréquents de Donald Trump. Il faut attendre un peu, dit-il, ne pas se faire trop d'illusions. Des Européens qui ont donc rendez-vous à Bruxelles ce soir pour un Conseil européen qui avait initialement été convoqué en urgence pour envisager une riposte aux menaces de Trump.
Et les Européens qui restent divisés sur la question du Mercosur. Vous savez que le Parlement européen a voté hier pour la suspension de la procédure de ratification de l'accord, le temps que la justice tranche. L'Allemagne demande quand même son application provisoire. La France, elle appelle au respect du vote. En France, il y a le département de Côte d'Or qui a l'intention d'interdire les produits en provenance d'Amérique du Sud dans les cantines de ses collèges.
Saura-t-on un jour ce qui s'est passé vraiment à Crans-Montana, en Suisse, la nuit du Nouvel An?
Vous vous souvenez du drame qui a fait 40 morts? Eh bien, les deux gérants français du bar incendie ont été auditionnés une deuxième fois par la justice suisse là, durant cette semaine. Jacques Moretti, c'était mardi pendant 7 heures. Jessica Moretti, c'était hier pendant 11 heures. Une vingtaine d'heures donc d'audition en tout, Romain Houck, pour RMC, sur les faits la nuit du drame.
Oui, une très longue audition dans laquelle Jessica Moretti est apparue très émue. Elle a souvent pleuré en évoquant les faits, au point que certains avocats de victimes, eh bien, regrette de ne pas l'avoir assez entendu sur le fond de l'affaire. D'après nos confrères de BFM TV, cette audition portait notamment sur les bougies scintillantes. Elle explique avoir, avec son mari, changé de modèle pour des bougies plus petites qui durent moins longtemps pour des raisons de sécurité. Elle a également réaffirmé que les barman et serveurs n'étaient pas formés à la gestion d'un incendie, mais elle précise que les deux agents de sécurité, eux, l'étaient. Enfin, elle assure ne pas être partie avec la caisse contenant les recettes de la soirée, contrairement à ce qu'ont affirmé des médias italiens. Reste la question de la mousse isolante qui a pris feu le soir du drame. La veille, Jacques Moretti, lors de son audition, a indiqué que le vendeur lui avait assuré qu'il s'agissait de matériaux adaptés. Jacques Moretti qui pourrait bientôt sortir de prison. Les quelques 215 000 euros de sa caution ont été rassemblés. Le tribunal des mesures de contrainte devra statuer prochainement. Son épouse, Jessica Moretti, reste libre mais soumise à des mesures pour l'empêcher de quitter le territoire suisse.
Cette info de dernière minute ce matin, on parlait, souvenez-vous, du redémarrage de la plus grande centrale nucléaire du monde au Japon, après 15 ans de fermeture à l'arrêt depuis la catastrophe en fait de Fukushima. Eh bien, on apprend ce matin que le redémarrage est suspendu. Il y a une alarme du système de surveillance qui s'est déclenchée. Tout suspendu, donc, dit ce matin l'opérateur. C'est rare, tiens, une grève dans le secteur bancaire. Les 78 000 salariés du Crédit Agricole sont appelés à débrayer aujourd'hui pour dénoncer, disent-ils, des augmentations de salaire insuffisantes selon les syndicats et contre les potentiels effets d'un plan de mutualisation de certains métiers. Tiens, c'est la première fois de la saison que les trois clubs français perdent la même semaine en Ligue des Champions. Après Paris et Monaco, hier c'est Marseille qui a été battu sèchement 3-0 par Liverpool. Ça se passait au Vélodrome et l'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi n'était pas tendre du tout avec ses joueurs à la fin du match, notamment le gardien Geronimo Rulli et le défenseur, écoutez, Benjamin Pavard.
On a mal joué, on n'a pas compris où se situait le jeu, il était beaucoup sur Pavard et on ne l'a pas compris. Et s'il l'avait compris, lui-même, on n'aurait pas perdu de ballon bête. L'attitude était là, mais quand tu joues contre Liverpool, il faut comprendre le foot, la volonté ne suffit pas.
Place à la Ligue Europa ce soir, Lyon en tête chez les Young Boys, les Suisses de Berne, sera à 18h45. Il y aura aussi Nice chez les Irlandais de Go Ahead et Lille contre les Espagnols du Celta Vigo, ça ce sera à 21h. Et puis on rentre dans le vif du sujet, tiens, l'Euro de handball, les Bleus joueront contre le Danemark ce soir 20h30, gros match pour le début du tour principal.
C'était le journal de Quentin Vinet.